L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, si vous êtes prêts, je vais juste attirer votre attention. On va passer quelques temps maintenant dans la parole. Comme vous savez, Pasteur Alain Patrick est parti de Paris pour venir déjeuner avec nous. C'est merveilleux. Et puis, on va avoir du bon temps. Donc, comme Pasteur Patrick, Alain Patrick a mentionné hier, il fait déjà partie de la famille, donc je ne suis pas obligé de faire beaucoup d'introductions, mais vous connaissez déjà un pasteur, il a implanté 4 églises, et puis c'est un ministère qui grandit, qui est béni avec des signes, des prodiges, des miracles sous son ministère. On a le privilège de l'avoir avec nous ce matin. Et vous savez, il a appris plusieurs choses dans le leadership. Il a appris toutes sortes de choses merveilleuses qu'il va pouvoir vous communiquer aujourd'hui. Donc, je veux juste vous inviter ce matin à ouvrir vos cœurs et demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler des choses. Donc, vous êtes tous prêts? OK. Donc, sans plus tarder, je vais juste inviter Pasteur Alain Patrick. Et on peut l'accueillir chaleureusement ce matin. On va juste prendre un moment pour prier ensemble, pour remettre ce temps. Père éternel, on veut venir devant toi ce matin pour te remercier, Seigneur Dieu, pour le privilège qu'on a d'être ensemble et pour le privilège aussi qu'on a de recevoir Pasteur Alain Patrick avec nous. Seigneur, on te remercie pour ton onction qui repose sur lui. Et maintenant, Seigneur, on prend la décision d'ouvrir nos cœurs et recevoir cette parole qui vient de toi. On a prié au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Pasteur Alain.
Amen, 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 amen. Amen. Vous allez bien? OK, moi je suis content d'être là. Hein, depuis hier soir, on passe des bons moments dans la présence de Dieu, on passe des bons moments dans la communion fraternelle. Amen. Ça fait plaisir de se sentir aimé. Hein? Non, ça fait du bien. Lorsque le pasteur Joël m'a réitéré l'invitation, j'étais vraiment content d'être là. J'étais vraiment content de répondre à l'invitation. Et je me rappelle que j'avais à cette date-là une pastorale avec tous mes pasteurs du ministère. Et j'ai renvoyé parce que je voulais vraiment être avec vous. Et puis, ce moment-là, c'est l'un des meilleurs, en fait, au Canada. Parce qu'il y a des très, très belles couleurs. Il fait beau temps. Et à chaque fois que je viens ici, il fait toujours un bon temps. Amen. Amen. Voilà. Et je préfère garder ce souvenir-là du Canada. Hein? C'est nettement mieux. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de casser mon mythe du super Canada. Bien. Hein? Voilà. Il y en a qui m'ont demandé si je suis déjà venu en hiver et je leur ai dit non, pas encore. Et je ne sais pas, mais on m'a dit qu'en hiver ici, c'est aussi beau. C'est-à-dire qu'il fait froid, il y a de la neige, mais il y a du soleil. Voilà, ça c'est génial ça. Ça c'est génial, ça c'est super et je pense qu'un jour je viendrai. Amen. Alléluia. Non, en tout temps, l'amour, en tout temps, si je vous aime, il faut que je vienne en tout temps. Il ne faut pas que j'aie peur de l'hiver, du froid, des choses comme ça. Amen. OK, très bien. J'aimerais vraiment m'adresser à vous en tant que leader. Honnêtement, je n'aurais pas la prétention de vous enseigner des principes de leadership comme le ferait John Maxwell, Miles Monroe et tous ces grands du leadership que vous connaissez. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit au paralytique, « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Vous avez remarqué qu'il est avec Jean en fait. Il est avec Jean et il ne dit pas « Nous n'avons ni or ni argent ». Il dit « Je n'ai ni or ni argent ». Parce qu'il ne connaissait peut-être pas la situation de l'autre. Et moi, je suis convaincu que Jean était peut-être plus prospère que Pierre. C'est la raison pour laquelle il a peut-être dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. » Et un prédicateur disait que l'une des raisons pour lesquelles Jésus a remis Marie à Jean, c'est peut-être parce que Jean avait plus de moyens, en fait. Que Jésus a pu dire, « Non, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Prends-en soin. » Et Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel, en fait. Je ne peux vous donner que ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Donc, je vais vraiment faire le nécessaire de vous donner ce que le Seigneur m'a donné. Amen. À chaque fois que je viens ici, j'aimerais que votre cœur puisse brûler. Alléluia. Puisse vraiment brûler pour le Seigneur, brûler pour l'Évangile, brûler pour la passion pour l'Évangile. C'est vraiment ça mon but. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais tout simplement partager avec vous trois règles d'or. Trois règles d'or pour votre mission. Trois règles d'or à respecter dans notre mission, dans notre destinée, dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce que je vais vous dire, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, c'est sûr. Mais honnêtement, n'oubliez jamais ces trois règles d'or quand vous servez le Seigneur. C'est une réunion de leadership. Vous êtes censé être des personnes matures. Vous êtes censé être des personnes qui ont acquis déjà certaines choses. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes censé comprendre la parole de Dieu. On n'a plus besoin de courir après vous pour prier. On n'a plus besoin de courir après vous pour lire la Bible. S'il faut qu'on court encore après vous pour lire la Bible, s'il faut qu'on court encore après vous pour prier, vous êtes encore un bébé. Vous avez besoin de grandir. Mon but ici, c'est de ne choquer personne. Honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de vous choquer. Je n'ai vraiment pas envie de vous blesser. Mais j'aimerais vraiment vous bousculer. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas dans la vie, c'est tout simplement parce que les gens sont dans leur zone de confort, en fait. Et parfois, il faut les bouger de leur zone de confort pour que quelque chose puisse se passer dans leur vie. Et c'est ça que j'ai envie de faire ce matin. J'aimerais vous dire qu'il y a mieux dans le Seigneur. J'aimerais vous dire qu'il y a certains principes qui vont vous amener loin avec Dieu. Et quand on parle de réunion de leaders, on parle de réunion avec des gens qui ont compris certaines choses. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas un leader, j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle à être un leader. Dieu vous appelle à grandir. À un point où tu seras capable de t'occuper d'autres personnes. C'est ça le but. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles et capables de le retransmettre à d'autres. Ça, c'est le processus de Dieu dans notre vie. Chacun d'entre nous, nous sommes des leaders que Dieu veut préparer pour s'occuper d'autres personnes. Et chacun d'entre nous, si nous aspirons à la maternité ou à la paternité, on appelle ça l'instinct paternel ou l'instinct maternel, tout naturellement, on aspire à ça, on veut se marier, on veut faire des enfants, on veut éduquer ces enfants-là. C'est en l'homme, cet instinct maternel. Spirituellement aussi, vous pouvez avoir cet instinct maternel ou paternel, le désir d'avoir des fils spirituels, le désir d'avoir des grands, des filles spirituelles. Et ça, c'est un désir que Dieu peut mettre au-dedans de vous. Mais pour ça, vous avez besoin de grandir. Parce que dans une maison, bien aimé, si tout le monde est bébé, on se demande qui va donner le biberon à l'autre et qui donnera la tétine à l'autre. Et comme j'ai l'habitude de dire, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tétines et beaucoup trop de biberons, il faut qu'on les brûle. Les gens sont là à l'église, vous voyez, ils ont l'air adultes, ils ont l'air âgés, mais c'est des vrais bébés. Ils ont encore des tétines et des biberons. Alors que Dieu nous appelle à grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vous savez, les gens qui sont à l'intérieur sont moins nombreux que ceux qui sont dehors. Il faut qu'on aille les chercher dehors et qu'on s'en occupe à l'intérieur. Or, si ceux qui sont à l'intérieur ne grandissent pas, comment ils vont s'occuper de ceux qui vont rentrer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la tâche va reposer sur un seul homme, le pasteur. Et le pasteur va être là dans une nurserie avec plusieurs bébés à nourrir. Ce n'est pas le plan de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Le plan de Dieu est que tu puisses grandir spirituellement. Et l'année dernière, lorsque je suis venu à la réunion, au brunch, le brunch qu'on avait fait, je vous avais parlé de ça, la nécessité de grandir, l'importance de grandir. Fixez-vous des objectifs, lancez-vous des défis. Vous devez grandir, faites un bilan. Entre l'année dernière, quand on s'est vu, et cette année, vous avez grandi à quel niveau? Est-ce que vous voyez? Ne faites pas du surplace. Parce que tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu ont progressé, ils n'ont pas fait du surplace. Tous les domaines de votre vie doivent évoluer. Tous les domaines, le domaine spirituel, mentalement, dans votre caractère et votre personnalité, vous devez évoluer. Physiquement, vous devez évoluer. Dans vos finances, dans votre vie sociale, vous devez évoluer, avancer. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas être tout le temps les bébés de je ne sais trop combien d'années. Il faut qu'on grandisse. Ce qu'on avait du mal à supporter les années d'avant, aujourd'hui, nous devons être capables de supporter cela. Quelqu'un me suit ici? Si on avait du mal à supporter les critiques, aujourd'hui, on doit être capable de supporter des critiques. Parce que si Dieu veut faire de votre vie une grande vie, sachez que le Seigneur a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on allume une lampe afin qu'elle soit vue. Si Dieu veut faire de votre vie une grande vie, ça veut dire que vous allez briller, les gens vont vous voir et les gens vont vous critiquer. Et si vous ne grandissez pas à ce niveau-là, vous aurez du mal quand les gens vous critiquent. Vous ne comprendrez pas pourquoi les gens vous critiquent. Et beaucoup de gens sont là, ils disent « Non, je ne comprends pas pourquoi on me critique, je ne comprends pas pourquoi on dit toutes ces choses-là à mon sujet, au travail, dans la famille. » On dit peut-être toutes ces choses-là parce que tu es différent et tu n'as pas le même type de vie qu'eux. Donc, ils ne te comprennent pas, ils te critiquent pour essayer de te faire changer, faire en sorte que tu leur ressembles et que tu arrêtes de ressembler à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire? Mais ça, ça doit être déjà des acquis. En tant que leader, ça doit être des acquis. Amen. Ok, trois règles d'or. Trois règles d'or. Je vais partager ces trois règles d'or. Et honnêtement, c'est dans la nuit, pendant que je dormais, que le Saint-Esprit m'a demandé de partager ça avec vous. C'est des choses que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais pas vous sortir. Vous savez, il y a un monsieur, un jour, à une réunion, il arrive, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, il arrive, la première réunion, il promet à tout le monde. Vous savez, les prédicateurs, on arrive, on aime bien le sensationnel. Waouh, waouh. Il arrive, il dit, je vais vous enseigner aujourd'hui sur... C'était un Africain. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur le boulevard de la gloire. On dit, ok, on arrive à la réunion, on écoute ce qu'il prêche, ça n'a rien à voir avec le boulevard de la gloire. Et pour qu'on revienne la semaine, le jour d'après, il dit, venez demain, je vais vous enseigner des choses plus secrètes. Le lendemain, on arrive, on écoute, il n'y a rien de secret dans ce qu'il dit, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de terrible. Pour nous faire venir le surlendemain, il dit, venez encore demain, je vais vous apprendre des choses plus secrètes. On arrive le surlendemain, il ne nous apprend rien d'extraordinaire. Il dit, venez encore demain, je vais vous apprendre des choses plus secrètes. Et au final, il ne nous a rien appris. Pourquoi? Parce qu'on est en quête, ils sont en quête du sensationnel. Bien aimé, je pense que quand on se tient devant le peuple de Dieu, le plus important, c'est de dire ce que Dieu nous a dit de dire. C'est ça le plus important, parce que vous n'avez pas besoin d'entendre autre chose. Vous n'avez pas besoin d'entendre des principes humains, vous avez besoin d'entendre des principes divins. Vous n'avez pas besoin d'entendre un homme vous parler, vous avez besoin d'entendre Dieu vous parler. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un me suit ici? De toute parole qui sort, et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Première règle d'or, l'amour. Première règle d'or, l'amour. Vous n'allez jamais être des leaders selon Dieu si vous n'avez pas cerné et compris toute la notion de l'amour. Comprendre c'est quoi l'amour, étudier c'est quoi l'amour et laisser Dieu impartir et vous aider à manifester l'amour. Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous en dit long sur l'amour. Je ne vais pas lire, vous irez lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 13. Le premier amour que vous devez manifester, que nous devons tous manifester, c'est l'amour pour Dieu. Déjà l'amour pour Dieu. Marc 12, 30 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je ne sais pas si vous avez noté, de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. De tout ton cœur, regardez. De toute ton âme. De toute ta passion, de toute ta pensée. Et de toute ta force. En fait, vous devez être des passionnés de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne perdez jamais cette passion du Seigneur. Jamais. Parce que le premier des plus grands commandements, c'est celui-là, d'être passionné de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et c'est la raison pour laquelle vous le servez. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous aurez du mal à payer le prix qu'il faut pour le servir. Parce que servir Dieu demande un prix. Il y a un prix à payer. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à nous investir dans la maison de Dieu parce qu'on a du mal à payer le prix. Et on a du mal à payer le prix parce que notre amour pour Dieu n'a peut-être pas encore atteint le niveau qu'il faut. Parce que quand on aime véritablement le Seigneur, quand on aime véritablement le Seigneur, on fait ce qu'il dit, on le sert et on accepte de payer le prix. On réalise que nous lui appartenons. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Tout ce qui est à nous est à lui. Et vice versa. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? N'oublions jamais, vous devez aimer Dieu de toute votre force. Votre cœur doit être rempli de Dieu. Et si votre cœur est rempli de Dieu, partout où vous êtes, je vous assure, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Partout où vous serez, vous n'hésiterez jamais à parler de Jésus-Christ ou à parler de Dieu. Est-ce que vous suivez? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ est ma passion. Et c'est vrai, Jésus-Christ est ma passion. Partout où je passe, je parle de Jésus-Christ. Les gens savent que je suis chrétien. Même au travail, les gens savent que je suis chrétien. Et là, il y a un prix à payer. Parce que dans votre travail, il y a certains milieux, quand on sait que vous êtes chrétien, vous allez être persécuté. Mais ça fait partie du lot, vous comprenez? Quand vous êtes chrétien, sachez une chose, bien-aimé. Dès le moment, et je vais vous dire, peut-être que ça va vous choquer, mais dès le moment où vous avez accepté d'être chrétien, vous avez signé votre arrêt de mort. Parce que... et ça, on l'oublie. Et ça, on l'oublie. Essayez un peu de vous projeter à l'époque des apôtres. Est-ce que vous pensez que c'était facile d'être chrétien à l'époque des apôtres? Béni soit le Seigneur, les choses ont évolué dans nos sociétés. Amen. Amen. À l'époque, lorsqu'on disait qu'on était chrétien, on nous tuait. Est-ce que vous comprenez? On nous pendait, on nous lapidait, on faisait beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais nous, aujourd'hui, quand on dit qu'on est chrétien au travail, on nous persécute un tout petit peu, on nous marginalise un tout petit peu et on se cache à cause de ça. Alors qu'il y a des chrétiens qui ont vécu pire. Bien-aimé, quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous aurez du mal à résister. Vous allez parler de lui partout où vous êtes. Et c'est là où l'évangélisation devient tellement naturelle, tellement, comment je peux dire ça? On n'a plus besoin de s'efforcer en fait. Vous savez, quand vous avez découvert un nouveau produit, vous êtes impatient d'en parler à vos proches. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si vous avez découvert quelque chose de révolutionnaire, vous en parlez à vos proches. Et si Jésus dans ta vie est révolutionnaire, si Dieu dans ta vie est révolutionnaire, tu n'auras pas peur de parler de lui autour de toi. Ta famille saura que tu es chrétien obligatoirement. Tes amis sauront que tu es chrétien et tu pourras partager ta foi. Et payer le prix pour ça, ce ne sera rien du tout. Comment je peux dire ça? Ce sera facile pour toi à cause de cet amour que tu as pour Dieu. C'est ça qui va vous sauver, hein. C'est ça qui va vous sauver parce que vous savez, si vous avez du succès dans la vie et que vous n'aimez pas Dieu, votre succès vous perdra. Je le redis parce qu'on dirait ça s'est envolé là. Je vais dire ça s'est envolé. C'est passé juste en haut, je vais le redire. On a parlé hier du succès, c'est bien d'avoir du succès dans la vie, je vous encourage à avoir du succès. Vous suivez? Mais si vous n'aimez pas Dieu, je vous assure, votre succès va vous perdre. Vous allez commencer à faire des compromis. Tout simplement parce que vous voulez conserver des choses. Un jour, un de mes fils spirituels est venu me voir, il me dit, pasteur, quand tu regardes tout ce que Dieu t'a donné, tu dois être vachement fier. Je lui ai dit, tu sais, il y a une chose qui m'intéresse dans la vie, et Dieu sait, je vous assure que c'est vrai, une seule chose qui m'intéresse, c'est tout simplement sa présence dans ma vie. C'est tout. Tout le reste peut partir. Tout le reste peut partir. Ta maison peut partir. Ta voiture peut partir. Même le ministère que Dieu te donne, il peut partir. Mais Dieu ne pourra jamais partir de ta vie. Jamais, jamais, jamais. Et c'est la chose que je garde précieusement en moi. C'est ça que je garde. Et je comprends pourquoi David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez attentivement ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire? Parce que Dieu veut vous bénir. et Dieu va vous bénir. Plusieurs d'entre vous ici, je vois dans mon esprit, Dieu va vous bénir de façon incroyable. Vous allez voir. Certains d'entre vous, vous cherchez à vous marier. Je vois cette année, il y a des mariages qui vont être célébrés ici dans cette église. Je le vois dans mon esprit. Vous aurez, Dieu va vous bénir. Mais si vous ne comprenez pas le principe de l'amour de Dieu, bien-aimé, vaut mieux aller au ciel célibataire qu'en enfer marié. Non, ça s'est encore envolé. On dirait qu'il y en a qui n'ont pas capté la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que je n'irai pas en enfer, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'enfer. Il y en a qui se sont convertis parce qu'ils ont eu peur de l'enfer. Hein? Ils se sont dit, non, je n'ai pas envie de souffrir pour toute l'éternité. Ils viennent, oh, je me convertis. Est-ce que vous suivez? Et ils ont peur de l'enfer. Il y a même des chrétiens à l'église qui vivent dans la sainteté, qui se torturent, qui sont là parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ils sont là, ils ont peur de l'enfer. Oui, ok, vous avez raison d'avoir peur de l'enfer. C'est pas une bonne chose, l'enfer. Quelqu'un me suit ici? Même si on vous prêche le fait que votre salut est sécurisé, vous êtes là, vous avez vous stressé quand même. Vous êtes là, vous dites, oh, et si c'était pas vrai? Et si... Il y en a qui sont très méfiants. Ils sont là, non, salut sécurisé, non, mais je veux quand même faire tout ce que je dois faire parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Vous faites bien. Faites bien, vous êtes prudents. Ne me fixez pas un rendez-vous en enfer. Je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Vous savez pourquoi? Il y a une chose qui me fait peur avec l'enfer. Ce n'est pas les flammes. Ce n'est pas la souffrance. Parce que vous savez, quand vous avez souffert à un certain moment de votre vie, comme j'ai souffert, tu te demandes si tu n'es pas en train de vivre l'enfer, en fait, à ce moment-là. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur avec l'enfer, c'est d'être éloigné de Dieu pour l'éternité. Mon Dieu, mais comment je vais vivre l'éternité sans lui? J'ai toujours marché avec lui. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours... Mais parce que, est-ce que tu imagines? Attends, tu as toujours été avec lui depuis tout petit. Attends, tu imagines passer l'éternité loin de lui? Non, il va trop me manquer. Je vous assure, il va... Et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas en enfer. Parce que j'aime trop Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est cet amour pour Dieu qui va vous amener tout naturellement à vivre dans la sainteté. Hein? Vous comprenez? Ce ne sont pas vos listes de péchés. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils font des trucs, ils ne se rendent pas compte que c'est la religion. Ils font des listes de péchés, ils affichent ça dans leur chambre en fait. Et puis, quand ils ont vaincu un péché, ils mettent une croix, huit barres. Ils disent ça, c'est vaincu. Mais ça, c'est la religion. Je vous assure. Ça, c'est la religion. Votre amour pour Dieu va vous aider tout naturellement à faire la volonté de Dieu. Votre amour pour Dieu va vous aider tout naturellement à vivre dans la sainteté. Parce que voyez-vous, quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Lorsque vous êtes en couple, l'une des raisons pour lesquelles vous ne faites pas ce que votre partenaire, quand votre partenaire ne veut pas que vous fassiez quelque chose, l'une des raisons pour lesquelles vous arrêtez de faire ça, c'est parce que vous aimez votre partenaire. Ça le rend malheureux lorsque vous faites cette chose-là. Et c'est pour ça que vous fournissez tant d'efforts. C'est tellement plus facile de faire les choses par amour que par contrainte. Non, ça s'est encore envolé. Ça s'est encore envolé. J'ai dit, c'est tellement plus facile de faire les choses par amour que par contrainte. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimez Dieu, vous allez vous rendre compte. C'est la raison pour laquelle Jacques a dit, les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Hein? La première fois que j'ai lu ça, ça m'a choqué, scandalisé. Or, les lois de Dieu ne sont pas pénibles. J'ai dit, Seigneur, je me bats avec tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Vous savez, lorsqu'on se retrouve dans notre chambre et qu'on commence à prier, parfois on est là toute la journée, on a fait tellement de bêtises, on commence à confesser nos péchés. On est là, Seigneur, je te demande pardon pour ceci. Je demande pardon parce que je me suis énervé. Je te demande pardon pour ceci, cela. Et après, il y a un péché là, je te demande pardon, on se tait et on le cite dans le cœur. On a l'impression qu'il y a des gens autour qui entendent, comme s'il y avait des caméras partout. Même ça. Même ça. Dieu m'a donné l'assurance que je pouvais avoir la victoire sur tout ça. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'un leader doit avoir la victoire sur le péché. Quelqu'un me suit ici? À un certain moment de votre vie et de votre destinée, péché commence à vous coûter trop cher. Non, vous n'avez pas suivi. Est-ce que vous comprenez? L'amour pour Dieu. Et aimer Dieu, ça implique de le connaître. Le connaître personnellement. Voyez-vous, vous devez connaître la nature et le caractère de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont du mal avec Dieu. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas sa façon d'agir. Ils ne comprennent pas sa nature. Ils ne comprennent pas du tout son caractère. Voyez-vous, il y a une sœur un jour, quand on chantait le chant d'Olivier Choa, « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, Olivier Choa. » Persévère, oui, persévère. Donc quand on chantait « Persévère », elle chantait « Persévère ». Nous, on s'encourageait avec ça, mais elle, pendant qu'elle le chantait, elle pensait « Papa sévère, papa qui est sévère ». Au lieu de penser au verbe « persévérer », mais elle pensait à Père qui est sévère. Voyez-vous, elle avait une fausse conception de Dieu et elle chantait ça en fait. Non, non, persévère, elle est là. Papa sévère. Parce que aimer Dieu, c'est connaître le Seigneur, c'est le connaître. Et notre amour pour Dieu tous les jours, doit augmenter. Tout comme notre amour pour notre femme et notre époux. Il doit augmenter tous les jours. En fait, il y a certains couples qui disent, non, ça fait déjà 10 ans que je suis marié avec toi, j'ai l'impression de ne plus t'aimer. Ça ne doit pas être comme ça. En principe, ton amour pour ton conjoint, de jour en jour, il doit monter, il doit augmenter. Est-ce que vous comprenez? Tu dois le trouver de plus en plus beau, tu dois la trouver de plus en plus belle. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Avec ou sans tablette de chocolat, tu le trouves toujours beau. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez? Avec ou sans cheveux blancs. Au contraire, quand tu vois qu'il y a beaucoup de cheveux blancs, tu lui dis, tes cheveux blancs te rendent charmant. Ou tes cheveux blancs te rendent charmante. Voilà. Parce que c'est une histoire d'amour. Et ça doit monter à chaque fois, votre flamme pour votre conjoint. Tout comme avec Dieu, votre flamme pour Dieu doit augmenter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. L'apôtre Paul a dit, déjà, Osée 6:3 dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et Philippiens 3:10 va nous dire, regardez un peu le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul, il va dire, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui en sa mort et pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. » Il dit ça, c'est le but de sa vie. Pendant que nous, notre but, c'est de ressusciter les morts, de lever les paralytiques, on cherche le Seigneur rien que pour ça. Et quand on prie, on est là, « Seigneur, la puissance, la puissance, la puissance. Je veux la puissance, je veux la puissance. » Et j'imagine le Seigneur là devant nous, on est là, « Je veux la puissance, je veux la puissance. » Il dit, « Mais quelle puissance tu me demandes? Je t'ai déjà tout donné. » Mon élan continue, « Je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. » Lui, il dit, « Mon but, c'est de le connaître. » Parce que si tu connais Dieu, si tu le saisis, tu auras sa puissance automatiquement. C'est comme ça. Automatiquement. Il dit, c'est ça son but, le connaître. Et vous devez être passionné de ça. Connaître le Seigneur, nous devons être passionnés de ça. Et vous savez, très souvent, en tant que leader, on oublie ça, on oublie ces principes-là qui ont posé les bases et les fondations de notre vie chrétienne au tout début. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi de la dégénérescence. Plus tu avances, plus tu dégénères. Et parfois, spirituellement, notre amour pour Dieu dégénère au fur et à mesure qu'on avance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit à une église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies abandonné ton premier amour. » La façon dont tu étais passionné de moi au tout début. Maintenant, je regarde, c'est comme si les choses étaient toutes froides. Il y a eu quelque chose qui a changé. Rappelle-toi, de ton premier amour pour Dieu, de comment tu cherchais le Seigneur. Toutes les réunions de l'église, tu y étais. Mais maintenant, tu choisis. Tu fais même de la loterie. J'ai 4 dimanches. Fiko, fiko, fion. Congo, maléke. Congo, malé. Congo, malé. Fion. Ce dimanche, j'y serai pas. Tu choisis. Alors que tous les dimanches, pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu aimes être dans sa maison. Tu aimes être dans sa présence. Et lorsque vous lisez David, vous rendez compte que ce monsieur-là, il aimait vraiment le Seigneur parce qu'il aimait être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. L'une des preuves que quelqu'un aime Dieu, c'est le fait qu'il soit constamment dans la maison de Dieu, je vous assure. Ça, c'est l'une des preuves. Je vous assure. L'une des preuves. Si vous aimez l'école, vous allez tout le temps à la fac. Hein? Vous allez tout le temps au lycée. Hein? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de clé là-dessus. C'est comme ça. Si vous aimez Dieu, vous allez être là où il y a Dieu. Là où il y a des gens qui ont Dieu, vous allez y être tout le temps. C'est tout naturellement ça. Et pour connaître qu'un chrétien commence à rétrograder, c'est quand il commence à s'absenter au culte, en fait, tout le temps. Et vous savez, le truc de s'absenter au culte, là, c'est un syndrome. Faites vraiment très attention. Parce que la première fois, quand tu y as goûté, après, tu ne peux plus t'en passer. Ton dimanche matin, dès que tu le sèches une fois, tu es là, tu dors, oh mon Dieu, oh, le dimanche d'après, tu auras du mal encore à venir. Et après, ça fait deux, trois dimanches que tu ne viens pas. Et là, c'est la culpabilité qui vient maintenant. Et quand la culpabilité t'assomme, tu ne peux plus. Tu restes chez toi. Et quand tu arrives à l'église, tu as l'impression que les gens te jugent. Tu es là et tu dis même, non, quand je suis venu à l'église, les gens me jugent. Les gens me jugent. Qui t'a jugé? On ne t'a rien dit, mais tu as l'impression que les regards des gens te jugent. C'est ta conscience qui t'accuse. Et moi, généralement, je reconnais qu'un chrétien commence à rétrograder. Là, comme ça, là, en fait. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ça. C'est bien, ok. Ça, c'est l'amour pour Dieu. Mais si vous aimez Dieu, vous allez aimer aussi votre leader et mentor. Vous allez l'aimer aussi. La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20. Pasteur Michael, est-ce que tu peux me trouver ça? 2 Chroniques 20:20. Ok, merci pasteur. 2 Chroniques 20:20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Si vous n'aimez pas votre pasteur, votre mentor, votre leader, vous aurez du mal à lui faire confiance. Et si vous avez du mal à lui faire confiance, il ne pourra pas vous amener là où Dieu veut que vous alliez. Parce que Dieu l'a choisi pour vous amener quelque part. Et si vous ne lui faites pas confiance, vous aurez du mal à aller là où Dieu veut que vous puissiez aller. Je vous assure. Ça, c'est important, primordial. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il faut être planté dans une maison. Il faut être fidèle à une église locale. C'est la raison pour laquelle je condamne le papillonnage. Le fait d'aller d'église en église, d'église en église, d'église en église, d'église en église. C'est la raison pour laquelle je condamne ça en fait. Parce que vous savez, pour qu'un arbre puisse grandir et prospérer, il faut qu'il soit planté quelque part. Essayez de planter un arbre, vous le déracinez jour après jour pour aller le mettre ailleurs, il finira par mourir. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais très souvent, on le fait dans notre vie spirituelle. On n'est pas planté. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez réussir, c'est important d'être planté. Écoutez, je n'ai pas envie de vous choquer, mais j'aimerais vous dire que si vous aviez déjà changé d'église avant Évécu, que Évécu soit votre dernière église. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez votre périple ici. Parce que Dieu veut vous amener quelque part. Est-ce que vous suivez? Avant, vous ne connaissiez peut-être pas cette vérité, mais maintenant, vous connaissez. Arrêtez votre périple ici et avancez. Vous allez voir, Dieu va vous bénir. Oh mon Dieu, on va me lancer des tomates à la fin là. Amen. Amen. Troisième, l'amour pour Dieu, l'amour pour le leader et le mentor. L'amour pour les hommes, je vais vous expliquer. Parce que nous exerçons un ministère envers les hommes, en fait. L'Église a une raison d'exister. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Écoutez, vous aurez pu être enlevé dès l'instant où vous êtes né de nouveau. Vous suivez? Vous naissez de nouveau, tac, tac, Dieu dit, ok, c'est bon, tu vas au ciel. Mais pourquoi après ta nouvelle naissance, tu es là? C'est parce que tu dois exercer un ministère envers les hommes. Et vous ne pourrez jamais être efficace dans ce ministère si vous n'aimez pas les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et on va voir de quel type il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas des gens adorables, formidables, qu'on aime. Hein? Il ne s'agit pas de ça. Hein? Je vous parle parfois des gens difficiles. Mais nous savons que nous avons quelque chose, un travail à faire dans leur vie. Quelqu'un me suit ici? Voyez-vous, Dieu va vous mettre en contact avec les gens pour deux raisons. Soit parce que ces personnes ont quelque chose à vous apporter, soit parce que vous avez quelque chose à leur donner, spirituellement parlant. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et Dieu va vous mettre en contact avec ces personnes-là. Et si vous n'aimez pas les gens, vous aurez du mal. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas. Vous suivez? Et détester les hommes. Est-ce que vous suivez? Vous ne pouvez pas dire, non, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et dans vos actes, dans vos œuvres, on voit que vous n'aimez pas les gens. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible d'aimer tellement Dieu et ne pas aimer les hommes? De toutes les façons, Jésus a dit, il y a un deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le véritable problème, c'est que parfois, nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Et donc, le prochain, on a du mal à l'aimer déjà parce que nous-mêmes, on a du mal à s'accepter, on a du mal à se comprendre, on a du mal avec tout ça. Est-ce que vous suivez? On doit aimer les autres. Pour aimer, pour exercer un ministère à l'égard de l'homme. Parce que plein de gens demandent des ministères de guérison. Dis Seigneur, je veux un ministère de guérison. Mais le ministère de guérison va être lié à la compassion que vous avez pour les malades. Si vous n'avez pas une compassion pour les malades, mais vous voulez un ministère de guérison. Ce ministère aura du mal à se manifester. Parce que quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus était toujours épris de compassion quand il voyait les gens. La compassion, c'est quoi? C'est ressentir la souffrance des gens. Ressentir la souffrance de la personne malade. Quand tu la vois, tu essaies de te mettre à sa place et tu commences à ressentir ce que la personne ressent. Pour toi, ce n'est pas un simple numéro. Et pour ça, vous devez comprendre, nous devons comprendre en tant que leader, la loi de l'humanité. La loi de l'humanité. Vous devez connaître les hommes, connaître comment ils sont. Il ne faut pas que ça vous surprenne, pas du tout. Comment est-ce que l'homme est? Et la Bible nous a expliqué et nous explique comment l'homme est. Parce que de toutes les façons, en amour, on a l'impression que c'est un peu risqué. Parce que certains chanteurs disent, en amour, il y a toujours un gagnant et un perdant. Avec Dieu, en amour, vous êtes toujours gagnant. Vous n'êtes jamais perdant. Que se passe-t-il lorsque vous aimez des gens, mais ces gens-là vous font tout le temps du mal? Que se passe-t-il? Parce que de toutes les façons, votre cœur n'est pas une serpillière, vous avez quand même un cœur. Vous aimez les gens, vous leur donnez de l'amour. Mais vous avez l'impression qu'ils ne considèrent pas ça, en fait. Et ça vous fait vachement mal. Il ne faut pas que ça vous surprenne, en fait. Vous devez tout simplement connaître l'humain. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'humanité. La loi de l'humanité est subdivisée en deux branches. La loi de l'humanité, la loi de l'humain. La première branche, c'est la réalité de la nature humaine. L'homme est mauvais. L'homme est ingrat. L'homme est oublieux. L'homme qui n'est pas né de nouveau, il est comme ça. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et parfois même à l'église, quand la vieille nature veut revenir, on a l'impression de revoir toutes ces choses-là. Quelqu'un un jour a dit quelque chose de catastrophique, que je trouve catastrophique. Il dit, je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église, je suis allé dans l'église, j'ai trouvé le monde. J'ai dit, mais tu étais dans quelle église en fait? Elle devait être terrible cette église-là, au point de comparer son église au monde. Et le monde où il était, à l'église, il était dans quelle église? Heureusement que ce n'était pas mon église. Alléluia! Première réalité, la réalité de la nature humaine. Elle est oublieuse, mauvaise, ingrate. Vous pouvez rendre service à quelqu'un aujourd'hui, mais un an après, la personne oublie le service que vous lui avez rendu. Ne vous plaignez pas. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Ne vous lassez pas de faire du bien. » Chers leaders, vous allez vous occuper de beaucoup de gens dans la vie. Parfois, vous allez exercer l'hospitalité. La Bible dit « Exercer l'hospitalité parce que quelques-uns, en le faisant, ont hébergé des anges. » Et vous allez le faire. Parfois même, la personne que vous avez hébergée, c'est celle-là qui va vous faire du mal. C'est celle-là qui va vous trahir. C'est celle-là qui vous mettra un couteau derrière le dos. Mais quelle doit être votre attitude par rapport à ça? Toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Hein? Parfois, j'ai du mal à comprendre ça, en fait. Je dis, mon Dieu, j'ai du mal. Et j'ai discuté avec le pasteur Michael ce matin. Et vous savez, la Bible dit que lorsqu'on te joue, on te gifle sur la joue gauche, c'est ça? Gauche, tends la joue droite. J'ai dit à Michael, on me gifle dans la joue gauche. Et je ne vais pas tendre la troisième, je vais fuir. J'ai dit, je vais fuir. Voyez-vous un peu comment déjà c'est difficile. Nous-mêmes. L'homme est mauvais, ingrat et oublieux. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si je vous ai raconté ça déjà. Une fois, j'ai hébergé un jeune dans mon église. Je l'avais trouvé, il était... Parce que Dieu va demander que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. En fait, vous êtes les représentants de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Ce que Dieu aurait pu faire à l'égard d'un être humain, il veut le faire avec vous. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas d'autre main, Dieu n'a pas d'autre pied, si ce n'est vos mains, si ce ne sont vos pieds. Dieu n'a pas d'autre bouche, si ce n'est ta bouche. La Bible dit dans le livre de Jérémie, si tu sépares ce qui est vil avec ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est vous que Dieu va utiliser. Donc, vous allez subir tout ce que Dieu subit. Si les gens insultent Dieu, les gens peuvent vous insulter. Parce qu'ils voient en vous la représentation de Dieu, la représentation du Seigneur. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites ceci. Faites ceci. J'ai hébergé ce jeune à la maison et... Quand je l'ai trouvé, il n'avait pas de logement. Il était dans l'alcool. Mais le Saint-Esprit m'a dit, prends-le et traite-le comme un petit frère. Et je l'ai pris. Je l'ai traité comme un petit frère. Je l'ai hébergé. Je lui donnais même de l'argent de poche. Je l'ai enseigné. Il a complètement été métamorphosé. Complètement. Deux ou trois ans plus tard, il avait même ma carte bleue, il connaissait les codes de ma carte bleue. Deux ans, j'entends des gens dire, oh, tu es naïf, pasteur. Non, quand vous avez confiance, vous avez confiance. Deux ans plus tard, il a rencontré une fille. Et quand il a rencontré cette fille-là, il a quitté l'église et il m'a insulté. Il a traîné mon nom dans la boue. Et un jour, je l'ai eu au téléphone, il m'a rigolé au nez. Il a dit, ah, tu penses que ton église va avancer? Ha, 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 tu vas voir, elle va se vider et elle va bien se vider. Je lui ai dit, tu sais frère, si Dieu est avec moi, personne ne pourra être contre moi. Si Dieu est avec moi, je vous assure, je suis dans le bon camp. Et je l'ai laissé parler. Et... Dieu a fait les choses un an plus tard ou deux ans plus tard. Il est revenu par hasard dans mon église. Ce jour-là, la salle était pleine à craquer et il y a eu quelqu'un qui s'était levé de son fauteuil roulant ce jour-là. Un clin d'œil du Seigneur que le Seigneur lui faisait. Vous allez rendre service aux gens, hein, mais les gens vont vous rendre le mal parfois par le bien que vous avez fait. Mais ne vous lassez pas. Amen. Continuez à le faire. Deuxième subdivision de la loi de l'humanité, la réalité de l'erreur humaine. Parce que l'homme est imparfait et les gens peuvent faire des erreurs. Parfois, il y a des gens qui vous ont offensé, ils n'ont pas fait exprès en fait de vous offenser. Vous savez, parfois, on entend trop des voix. On arrive à l'église, on a l'impression que tout le monde nous déteste à l'église. On a l'impression que tel frère pense des choses sur nous en fait. Et on peut aller voir tel frère, on dit non, je pense que le frère tel ne m'aime pas. Parce qu'on pense à la place des gens. Bien aimé, quand on est grand, spirituellement, quand on est mature, on ne doit pas penser à la place des gens. Si tu as un doute, va voir la personne. Et dis-lui, j'ai l'impression que, est-ce vrai ou pas? Vous savez, j'ai eu un truc un jour avec Michael et les gars d'enseignement.com. Je les connais depuis des années déjà, mais vraiment depuis plusieurs années. Et honnêtement, quand vous connaissez des gens, vous savez les choses qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Vous avez confiance à ces personnes-là. Et là, en fait, j'avais eu une discussion avec Michael au sujet des emails, tout ça, de la newsletter. Et là, bon, il y avait des gens, en fait, sur le site qui abusaient des emails des internautes d'enseignement.com. Et quand je suis allé sur mon compte, tout de suite, j'ai vu un message qui disait « Vous n'avez plus la possibilité de consulter les emails. » C'est quoi le message exactement, Mika? De télécharger les emails, tout ça. Et là, quand j'ai lu ce message-là, toutes sortes de pensées ont commencé à traverser ma tête. Toutes sortes de pensées. Et je les ai refusées. J'ai dit, je refuse ces pensées au nom de Jésus parce que je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Je sais, je les connais, je sais que ce n'était pas dans le but de me nuire. Je sais que ce n'était pas... Parce que le diable a commencé à mettre plein de choses dans ma tête. Non, c'est pour te bloquer. Non, c'est pour te nuire. Et je savais, vous savez, parfois, vous avez au-dedans de vous le sentiment que vous savez que c'est le diable. Et là, j'ai appelé Michael. J'ai dit, Michael, voilà la situation en fait. Explique-moi, pourquoi on ne peut plus télécharger les emails? Et Michael m'a dit, ah, non, c'est parce que certains hommes de Dieu ont abusé et ce n'est pas toi en fait. J'ai dit, ouf, merci Seigneur. Je me disais bien que tu n'étais pas comme ça. Je suis désolé frère, je lui ai dit, je suis vraiment désolé frère, mais j'ai été attaqué dans mes pensées. Je voulais vraiment que tu puisses me rassurer. Est-ce que vous suivez? Au lieu de penser à la place des gens. Mais nous sommes là, nous nourrissons ces pensées. Et ça tue la communion fraternelle à l'église, ça tue l'amour à l'église, l'amour que nous avons pour les gens, ça tue. Et ça amène ce qu'on appelle les murmures, les calomnies. Ça amène les plaintes. Les murmures et les calomnies vont détruire une assemblée. Vous êtes toujours avec moi? La deuxième règle, gloire au Seigneur, la deuxième règle, c'est être constamment rempli du Saint-Esprit. Être constamment rempli du Saint-Esprit. Première règle, l'amour de Dieu. Est-ce que vous suivez? L'amour pour Dieu ou l'amour. Deuxième règle, être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est des choses que nous devons acquérir en tant que responsable. La Bible va dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Parce que vous savez quoi? C'est de notre responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons toujours l'impression que c'est la responsabilité de Dieu, mais quand nous voyons ce passage, c'est l'impératif. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est à l'impératif. Il dit, mais soyez, c'est à l'impératif, c'est un ordre que Dieu nous donne. Et Dieu ne peut pas nous donner un ordre que nous ne pouvons pas exécuter. S'il dit qu'il faut que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un robinet ouvert qui coule 24 heures sur 24, c'est à vous d'aller boire à ce robinet-là. Est-ce que vous me suivez? Constamment, 24 heures sur 24, ça coule. Alléluia. C'est votre responsabilité. Nous avons toujours cru que c'était de la responsabilité de Dieu. Mais c'est notre responsabilité. Et la Bible va nous dire comment. La Bible va dire en nous entretenant par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Il y a des techniques pour être rempli du Saint-Esprit. Si tu sens que tu es abattu, si tu sens que tu es sec, tu rentres dans ta chambre, tu commences à chanter des cantiques. Et le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va t'inonder. Il le fera. Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Et la Bible dit, il s'est écrié. Ça veut dire qu'il avait tellement besoin que les gens viennent boire de cette eau qu'il proposait. Quelqu'un me suit ici? Jésus est là, il attend tout simplement pour te donner. Être constamment rempli du Saint-Esprit. Et voyez-vous, hein, si le Saint-Esprit ne t'influence pas, quelque chose d'autre va t'influencer. Ça s'est envolé. Si le Saint-Esprit, parce que quand tu es constamment rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'influencer. Quelqu'un me suit ici? Si le Saint-Esprit ne t'influence pas, quelque chose d'autre va t'influencer et ce sera soit la chair, soit Dieu. Et quand on est bébé spirituel, on est influencé par toutes ces choses-là. Parfois, on est influencé par le Saint-Esprit, parfois, on est influencé par le diable. Regardez, par exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, à un moment donné, il est en train de parler avec Jésus-Christ. Et puis, Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va dire, « Tu es le Messie. » Et Jésus va dire, « Ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Quelques temps après, Jésus va annoncer sa mort. Sa mort à Jérusalem. Pierre encore, poussé par je ne sais trop quoi, va réprimander Jésus. Il va oser réprimander le maître. Il va dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. En d'autres termes, il a vu Satan derrière qui influençait l'apôtre Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si vous n'êtes pas influencé, ça il faut le retenir, hein. Si vous n'êtes pas influencé par le Saint-Esprit, vous allez être influencé par un autre esprit. Et lorsqu'on est des leaders, c'est important d'être influencé par le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes influencé par le Saint-Esprit, vous allez mieux comprendre les décisions du pasteur. Les décisions du pasteur qui sont prises sur la montagne. Parce que voyez-vous, Moïse allait sur la montagne et c'est de là qu'il recevait les décisions. Vous suivez? Moïse était sur la montagne, mais le peuple était où? Le peuple était en bas de la montagne. Josué était en bas de la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que votre leader va voir, que vous n'allez pas voir, tout simplement parce que votre leader est dans une position dans laquelle vous n'êtes pas. Ça s'est encore envolé. Et parce que vous ne voyez pas la même chose, vous n'aurez pas, comment on appelle, parfois vous n'allez pas comprendre les choses. Regardez, Moïse a reçu les tables de la loi. Et Dieu lui dit, sur la montagne, que le peuple a péché. Josué va rester en bas. Josué était un militaire. C'était un assistant de Moïse. Moïse était prophète. C'était lui qui dirigeait le peuple. Est-ce que vous suivez? Ou Dieu dirigeait le peuple à travers lui. Il va être sur la montagne. Dieu va dire déjà à Moïse, le peuple a péché. Moïse va avoir déjà l'information. Quand Moïse descend, Josué n'est pas avec le peuple. Josué est en bas de la montagne. Il attend Moïse. Et il y a le peuple qui va se mettre en fête, qui va danser, qui va chanter. Josué va analyser la situation en fonction de sa position, en fonction de son poste, en fonction de là où Dieu l'a placé. Josué va dire, j'entends des bruits de guerre. Et ça, c'était normal parce que le monsieur, c'était un soldat, c'était un militaire. Mais est-ce que c'était vrai ce qu'il entendait? Il entendait des bruits, mais ce n'était pas des bruits de guerre. Est-ce que vous comprenez? Moïse va dire, non, ce ne sont pas les bruits de guerre, ce sont les bruits d'un peuple en fait. Moïse va avoir l'exacte information à cause de sa position, mais Josué n'aura pas l'exacte information. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je vous ai dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour ça. Parce que la majorité des personnes qui font des problèmes au leadership, à l'église, ce sont des personnes charnelles généralement de l'église. Ce sont des gens charnels. La chair les a tellement envahis, ils ne comprennent même plus les choses spirituelles, ils ne sont même plus charnels. Quand on est plus charnel, on devient viandal. Vous n'avez pas compris. Charnel, chair, viande. C'est pour ça que vous devez toujours être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez garder la conscience de la présence de Dieu. Gardez cette conscience partout où vous êtes. Dieu est avec vous et vous en êtes conscient. Partout là où vous êtes. Vous allez voir, ça va même vous préserver du péché. La conscience de la présence de Dieu. Dieu est là. Il vous accompagne partout. Dieu n'est plus dans un tabernacle quelque part dans le désert. Dieu a choisi de tabernacler en vous. Quand vous bougez, Dieu bouge avec vous. Quelqu'un me suit ici? Si vous êtes dans un métro, Dieu est avec vous dans le métro. Est-ce que vous suivez? C'est la raison pour laquelle, moi, quand je vais dans des endroits, je vous assure, je n'ai pas peur des endroits dans lesquels je vais. Que ces endroits-là aient des démons ou pas, je sais que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Les oppressions démoniaques et sataniques, moi, je ne les ressens pas. Et c'est là où je me suis dit, non, mais peut-être que je suis bizarre. Mais moi, je ne ressens pas ces choses-là parce que je suis plus conscient de la présence de Dieu dans ma vie que de la présence des démons autour de moi. Je vous dis la vérité, moi je vous dis ma réalité à moi. Être conscient, constamment, la présence de Dieu. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez être plus conscient de la présence de Dieu, vous verrez, vous allez vous sentir rempli du Saint-Esprit. Vous aurez envie de prier constamment. Et votre amour pour Dieu va augmenter. Amen. Et écoutez, la plénitude du Saint-Esprit vous rendra prêt à chaque moment pour opérer dans le surnaturel. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes appelés à vivre une vie surnaturelle, bien-aimés. Vous n'êtes pas des simples hommes. Vous êtes nés de nouveau. Et vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et Dieu veut manifester sa puissance, son royaume à travers vous. Vous êtes la solution au problème des hommes. Mais le problème, c'est quoi? Si les hommes sont limités, vous devez amener le Dieu de l'impossible, celui qui fait sauter les limites. Étant constamment rempli du Saint-Esprit, vous vous rendrez compte, vous serez en face des malades, vous n'allez pas réfléchir 20 000 fois, vous n'allez pas hésiter, vous prierez pour le malade, l'onction rentrera dans le malade et le malade sera guéri instantanément. Parce que vous êtes constamment rempli du Saint-Esprit, constamment. Vous allez prêcher l'évangile et pendant que vous serez en train de prêcher l'évangile, vous serez tout simplement surpris de voir la personne pleurer. Elle pleure. Elle va te dire, non, depuis que tu me parles, je sens une paix, je sens quelque chose m'envelopper. Mais c'est parce que tu transportes la présence de Dieu avec toi. Plus tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit, plus la puissance de Dieu va augmenter dans ta vie. Et laisse-moi te dire, l'évangélisation sera encore plus facile comme ça. Amen. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. La troisième règle d'or est la dernière. La dernière, c'est ce soir, je prierai pour vous. Alléluia. Ce soir, je prierai pour vous. Quand j'étais dans l'avion, j'ai eu des paroles de connaissance. J'ai vu des choses. Et ce soir, je prierai pour vous. Amen. Je prendrai le temps vraiment de prier pour vous. La troisième chose, c'est être hardi et courageux. Être hardi et courageux. Josué 1:9 nous dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. » Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi. Le verbe, c'est se fortifier. Vous suivez? Un leader, c'est quelqu'un qui sait comment se fortifier. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Un bébé, lorsqu'il tombe, on le relève. Lorsqu'il est faible, on lui donne de la force. Un leader, un homme mature, lorsqu'il tombe, il sait se relever. Lorsqu'il est faible, il sait ce qu'il faut faire pour recharger l'énergie spirituelle. Je ne sais pas si vous suivez. Fortifie-toi. La Bible dit, le juste tombe cette fois, il se relève. Le problème, ce n'est pas tomber. Le problème, c'est se relever. Est-ce que quand tu tombes, tu as toujours besoin qu'on vienne te relever ou quand tu tombes, tu sais te relever? Si tu as toujours besoin qu'on vienne te relever, tu as encore un enfant, il faut que tu grandisses. Mais si tu comprends comment te relever quand tu tombes, c'est la raison pour laquelle la Bible a dit, fortifie-toi, il faut apprendre. Vous devez, et il y a des choses, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à vous fortifier. Il y a le parler en d'autres langues, seul chez vous, à la maison. Vous suivez? Il y a ce qu'on appelle le principe du filon d'onction. Vous devez connaître votre filon d'onction. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une chose spirituelle, quand vous la faites, à chaque fois que vous la faites, quels que soient les moments, les circonstances, l'onction descend tout à coup sur vous. Moi, c'est certains prédicateurs. Il y a des prédicateurs, quand je les écoute, tout à coup, l'onction descend sur moi. Ou bien, il y a certains cantiques, quand je me mets à les chanter, bien aimé, si j'étais sec, tout à coup, ça me remplit, en fait. Ou il y a des passages bibliques. Moi, par exemple, il y a le passage où Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. À chaque fois que je lis ce passage, quelque chose se passe dans mon esprit. Donc, quand je me sens sec spirituellement, je vais tout simplement dans ce passage, je le lis et ça réveille quelque chose. Ou bien, il y a des prédicateurs, je mets tout simplement, quelque chose se déclenche. Connaître son filon d'onction. Si vous ne connaissez pas votre filon d'onction, vous aurez du mal à vous relever vous-même quand vous êtes tombé. Vous aurez toujours besoin qu'un frère vienne. Imaginez un seul instant que vous alliez passer des vacances en Afghanistan. Quelle idée d'aller en Afghanistan passer les vacances, mais ça peut arriver. Quelle idée, mais ça peut arriver. Imaginez un seul instant, il n'y a pas d'église, il n'y a pas le pasteur Joël, il n'y a pas tout ce monde-là. Tu fais comment? Il faut te fortifier toi-même. Amen. Amen. Vous allez rencontrer, et je vais terminer, vous allez rencontrer des gens qui essaieront de vous intimider. Mais ne craignez pas. Parce que sur le chemin de votre destinée, écoutez-moi bien, toutes les personnes qui vont se dresser en ennemi contre vous auront déjà signé leur arrêt de mort. Non, vous n'avez pas suivi. Vaut mieux être de votre côté parce que Dieu est de votre côté. Quelqu'un me suit ici? Donc ne craignez pas. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je n'ai pas peur de vous laisser intimider par qui que ne vous laissez pas intimider, par qui que ce soit. Ça ne sera pas facile. Mais quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un me suit ici? Soyez courageux et hardi. Dieu va vous utiliser quand vous allez être courageux, quand vous allez être hardi, quand vous allez oser des choses. Tu as peut-être peur de prendre des responsabilités parce que tu te dis, est-ce que je vais être capable? Dès le moment où Dieu t'a demandé de prendre cette responsabilité, il t'a imparti, il t'a communiqué la capacité d'assumer cette responsabilité. Parce que Dieu, quand il donne un ordre, la semence de l'accomplissement de cet ordre vient avec toujours et toujours. Dieu ne peut pas te donner un ordre. Et la capacité d'exécuter cet ordre ne vient pas avec. Si Dieu t'a donné un ordre, la capacité de le faire vient toujours avec. Est-ce que vous êtes avec moi? On va se lever quelques instants. Mon but, bien aimé, c'est vraiment de vous encourager. Mon but, je voulais pas vous déprimer, je ne veux pas vous déprimer. Je veux vraiment vous motiver. Alléluia! Je vais prier globalement pour vous, mais ce soir, j'aimerais vraiment prier pour vous parce que je le ressens. Hier, je recevais ce passage biblique de l'apôtre Paul qui dit, je pense, c'est dans Romains chapitre 1, il dit, j'aimerais être parmi vous pour vous communiquer quelques dons, en fait. Il y a certains d'entre vous, vous avez un problème avec le courage. Vous avez vraiment un gros problème avec, vous n'êtes pas très courageux, vous n'êtes pas très hardi. Honnêtement, sans me vanter, vous avez en face de vous quelqu'un de très courageux. Je vous assure, très, très, très courageux. Et si Dieu m'a donné ça, j'aimerais vraiment prier pour vous. C'est possible, bien-aimé. Vous n'allez jamais accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez dans votre vie si vous n'êtes pas courageux. Si le pasteur Joël n'avait pas été courageux pour démarrer l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des appels, en fait, mais ils sont là. Ils ont fait des écoles bibliques, ils ont tout fait, mais ils n'ont jamais osé. S'il n'avait pas eu le courage de le faire, on n'en serait pas là. Si Michael n'avait pas eu le courage d'abandonner ses études pour faire enseignement.com, aujourd'hui, la francophonie n'aurait pas été bénie par ce puissant outil. Et je crois que vous avez quelque chose à faire. Amen. Et il vous faut du courage. J'aimerais qu'on lève les mains comme ceci aux cieux. J'aimerais que vous dites, Seigneur, je t'aime. Dites-le lui vraiment. Dites, Seigneur, je t'aime. Que mon cœur soit rempli de ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que le robinet est ouvert et je viens boire. Je veux être rempli du Saint-Esprit chaque minute, chaque instant, parce que je veux voir comme tu vois. Je veux parler comme tu parles. Parce que je veux te ressembler. Merci pour le courage dans ma vie. Je crois que je suis plus que vainqueur. Je crois que si tu es avec moi, personne ne pourra résister en face de moi. Je suis plus que vainqueur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez acclamer le Seigneur. On se voit tout à l'heure.
Gloire à Dieu. Combien d'entre vous avez été bénis? Hey, c'est bon, hein? Gloire à Dieu. Moi, j'ai été très béni, pasteur Alain. C'est une bénédiction de t'avoir, puis on sent l'onction. Et en passant, juste vous dire, j'ai pas glissé aucune parole au pasteur Alain avant de venir. Hein? Avant de prêcher, je dirige jamais les orateurs, dis, ben, il faut dire ci, il faut dire ça. Je vous le dis là. Avant, toute la fin de semaine, c'est des choses, vous êtes wow, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas votre pasteur qui glisse des mots. Parce que moi, je suis vraiment béni, c'est vraiment de Dieu. Puis on prend cette parole, puis vraiment, il y a tellement de bons points, mais le courage, hein, on a besoin du courage pour avancer. C'est pas toujours facile, mais dans l'onction de Dieu, ça devient facile. Hein? Gloire à Dieu. Mais c'est ça, il faut aller trouver un refuge dans l'onction de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est super merveilleux. Merci à tout le monde d'être venu ce matin. On va juste prier pour terminer ce temps ensemble et on se revoit à 19h ce soir à l'église. Donc, Seigneur Dieu, on vient devant toi et Seigneur, on veut te remercier pour ce bon temps qu'on a eu ensemble, pour ce brunch. On te remercie pour ton onction qui est ici avec nous. Merci aussi pour les révélations que tu vas nous accorder tout au long de cette fin de semaine. Merci, Seigneur Jésus, pour ces 4 ans qu'on a vécu ensemble et les années qui sont devant nous, des années de victoire, des années de percée. Merci, Seigneur Dieu, pour ton onction qui est avec nous. On a pris au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à ce soir.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.